Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web sur graphite.net. On continue cet après-midi une série d'émissions autour du cours WE01, questionner le web, de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui et la semaine prochaine, donc mercredi prochain, les étudiantes et les étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre qui est articulé autour de différentes grandes problématiques qui sont reliées de près ou de loin au web, mais plus généralement au numérique. Pour cette quatrième émission de l'après-midi, je suis en direct en studio avec quatre étudiants, Théodore, Victor, Dorian et Roy. Bienvenue, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et alors, vous avez travaillé sur donc vous, Théodore et Victor, sur un service, on va dire, une entreprise relativement peu connue du grand public, mais qui représente en fait un acteur majeur de l'infrastructure contemporaine d'Internet. Et vous, Dorian et Roy, vous avez travaillé notamment sur des lunettes connectées. Je vous laisserai expliquer un petit peu de quoi on parle, mais on a en tête quelques produits comme ça qu'on fait un petit peu polémique. C'est dit dernières années. Et en fait, vous allez nous donner des clés pour comprendre les problématiques en fait, qui sont derrière ces technologies, qui sont bien connues d'une part des informaticiens, d'autre part du grand public. Mais en fait, derrière se cachent des enjeux de société importants. Et du coup, je vous laisse prendre la suite, Théodore et Victor.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre projet de l'UVWE01, nous allons parler des infrastructures du numérique. Je suis Victor Baudou.
Et je suis Théodore Léris. Rebonjour Victor, rebonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons effectivement revenir sur une importante panne informatique qui a touché donc l'entreprise Cloudflare il y a quelques mois.
Donc pour comprendre ce qu'il s'est passé, nous avons étudié un compte-rendu rédigé par Matthew Prince, le PDG de l'entreprise.
Et l'objectif donc de l'émission, il est double. On va d'abord expliquer techniquement les causes de la panne et on va également analyser cet événement au travers d'un concept qu'on a abordé en cours, la société algorithmique. Allez, commençons tout de suite, Victor.
Donc reprenons déjà le contexte. Le 18 novembre 2025, une grande panne touche les services de Cloudflare. Cloudflare, c'est un intermédiaire technique sur le web. Beaucoup de sites l'utilisent pour protéger et accélérer leurs pages. Le jour de la panne, Matthew Prince a publié un article sur le blog de l'entreprise pour expliquer la situation.
Alors cet article, quand on le lit, il donne beaucoup de détails techniques, parce que pour l'entreprise, c'est aussi un outil de communication de crise qui vise à rassurer les clients. Et là, en l'occurrence, l'auteur, donc le PDG, il présente cette panne comme un simple problème de logiciel, une erreur. Et là, on peut déjà se poser des questions, puisque de prime abord, il ne remet pas du tout en question le modèle déjà très centralisé de l'entreprise qui vient conduire une grosse partie du web, et il avance, entre autres, aucun chiffre sur le nombre de sites qui sont affectés.
Et maintenant, un focus sur le problème technique. Donc le point de départ, c'est une modification des droits d'accès sur une base de données qui a créé un dysfonctionnement. Donc un fichier de configuration s'est mis à générer des lignes en double.
Et ces doublons, ils ont fait en sorte que le fichier en lui-même, il double de taille. Et quand ce fichier a été envoyé aux différents serveurs, ceux qui s'occupent notamment d'aiguiller le trafic Internet, eh bien, il n'était pas conçu pour lire un fichier aussi volumineux. Et ils ont donc commencé à arrêter de traiter les requêtes des utilisateurs et renvoyer les fameuses erreurs que vous avez probablement aperçues ce jour-là, les erreurs de type 5XX, donc, qui signalent un problème interne qui empêche de traiter la demande.
Et c'est ainsi qu'un tout petit problème sur une option de sécurité a bloqué une grande partie du trafic. C'est l'effet papillon. Pour illustrer la manière dont ce genre de panne affecte la population et soulève certaines questions, nous vous proposons tout de suite d'écouter notre premier extrait audio.
Vouloir dire pas mal de rouge d'ici le temps des fêtes.
Ce qui a retenu l'attention en commençant la journée aujourd'hui, c'est cette panne d'Internet. On a parlé des sites ChatGPT, le réseau X, mais dans le fond, ce sont 100 millions de sites qui ont été touchés.
100 millions de sites
c'est
web,
beaucoup,
celui de IKEA, ceux que vous consultez le matin pour faire votre revue de presse. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est Cloudflare? C'est une espèce de miroir qui fait des copies des sites Internet et qui vous permet d'y accéder plus rapidement. On ignore l'origine véritable de la panne, mais 100 millions de sites web qui flanquent change d'un coup. Julie, ça nous montre que la concentration des sites web, c'est un risque en 2025 avec ces géants qui prennent énormément de place. Et un mot en terminant sur les résultats de Home Depot, parce que ça a ajouté au sentiment d'un...
Ok, alors nous revoilà. Et donc on va maintenant utiliser le concept théorique pour analyser cet événement. Et on va donc parler de la société algorithmique.
La société algorithmique se définit principalement par la généralisation d'outils numériques pour réguler, surveiller et contrôler les comportements. Alors à l'origine, cela concerne surtout la gestion publique et l'État, qui cherchent à optimiser la société comme s'il s'agissait d'un simple système technique. Mais aujourd'hui, cette logique s'applique de la même manière aux grandes entreprises technologiques de la Big Tech.
Ah, les promoteurs de ces systèmes, ils affirment que cela permet une plus grande efficacité. Et l'idée de départ, c'est donc d'utiliser la vitesse de calcul des machines pour éliminer la subjectivité et les erreurs humaines dans le traitement. On délègue alors la décision à un modèle mathématique pour trier, classer ou prédire des événements de manière purement logique.
Mais on recense plusieurs limites à cette rationalité. Donc d'abord, ces critères automatisés sont souvent opaques pour les utilisateurs. Ensuite, il manque totalement de souplesse. Dans une organisation classique, un humain dispose d'une marge de manœuvre pour s'adapter à une situation imprévue ou à une anomalie. Mais face à un algorithme, cette capacité de négociation disparaît. Si la réalité ne rentre pas exactement dans les cases prévues par les concepteurs, alors le système se bloque.
Et ce qu'on observe, c'est que ces architectures de contrôle, elles ont aussi besoin de données pour s'alimenter, s'entraîner et se construire. Et finalement, ces données, elles doivent être représentatives des comportements réels, afin d'obtenir des modèles derrière qui sont cohérents. Et l'acquisition de ces dernières, elle passe souvent par une discrétisation donc, du comportement, et ce processus, il n'est pas toujours conscient pour l'utilisateur. Pour ça, on a donc un deuxième extrait qui va approfondir cette notion.
Recueillis au départ des requêtes que vous introduisez sur les moteurs de recherche, etc. C'est ce qu'on va appeler les soft data, les données, si vous voulez, qui jouent un peu l'effet de signaux faibles. Ce sont des soft data qui émanent de nos comportements de façon et qui ne sont absolument pas du tout des transcriptions volontaires ni même conscientes de la part des individus. La plupart du temps, si vous voulez, ces signaux qui émanent de nos comportements émanent de nos comportements à la manière de phéromones numériques. C'est quasiment comme si nous étions des animaux. Si vous voulez, les animaux ne choisissent pas de laisser des phéromones sur leur passage ou là où ils font leurs besoins, etc. Mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, déjà, vous voyez déjà un premier décalage, c'est qu'on va, on va pouvoir, au départ de ces données, créer du sens, alors même...
Donc on vient d'entendre Antoinette Rouvroy, une chercheuse qui a travaillé sur la gouvernementalité algorithmique et qui ici donnait une interview auprès de l'ENS. Voilà. Donc maintenant, on va faire à présent le lien entre la panne de Cloudflare et ce fonctionnement de la société algorithmique. Dans son rapport, l'article en question, donc, l'entreprise, elle explique que l'incident, il est lié à son module appelé « bot management ». Ce module, il sert à surveiller le trafic sur les sites de ses clients pour distinguer les bons bots des bots malveillants. Un bot, dans ce cas-là, c'est un algorithme qui va être chargé de parcourir le web pour différentes raisons. Par exemple, bonne, l'indexation des pages web par Google, ou plutôt mauvaise, avec un exemple, le ratissage d'adresses mail présentes sur le web.
Et pour effectuer ce tri en temps réel, Cloudflare applique précisément les principes de la société algorithmique. L'entreprise utilise un modèle de machine learning qui attribue un score de légitimité à chaque connexion. Pour que l'algorithme fonctionne, il est nécessaire de traduire les comportements en variables quantifiables, ce que l'on appelle la mise en données ou la datafication de notre société.
Les variables analysées, ici, elles sont très précises. On trouve entre autres, d'après le site de Cloudflare, qu'ils étudient la vitesse de navigation, donc la fréquence à laquelle le bot, par exemple, va demander l'accès à une page, mais également l'historique des pages consultées ou la réputation de son adresse IP. Toutes ces règles de calcul, elles sont regroupées dans un fichier de configuration qui est mis à jour de manière automatisée toutes les 5 minutes.
Et c'est ici que l'on retrouve la rigidité des modèles mathématiques dont je vous ai touché un mot tout à l'heure. Le logiciel de Cloudflare avait été programmé avec des limites strictes. Lorsque le fichier contenant toutes les variables a doublé de taille à cause du bug de doublon, il a dépassé la capacité maximale prévue par les développeurs. Face à cette anomalie quantitative, la machine a été incapable de s'adapter ou de contourner le problème. Elle a tout simplement cessé de fonctionner.
Donc là, on voit que bien que ce module ne soit qu'un petit élément finalement au milieu de la chaîne posée par Cloudflare dans son traitement des requêtes, il a suffi à bloquer toute la machine. Et ici, la volonté donc de centraliser, d'automatiser le contrôle du trafic, il a eu une conséquence directe. Une conséquence directe de l'architecture du réseau. En effet, pour analyser des millions de comportements et des requêtes en temps réel, il faut concentrer la puissance de calcul. Et cela, ça pousse vers un modèle qui va être hyper centralisé, où en l'occurrence, Cloudflare devient un point de passage quasi unique et obligatoire quand on navigue sur Internet.
Et c'est l'exact inverse de la décentralisation historique d'Internet, inspirée du réseau ARPANET. La décentralisation repose sur une redondance des serveurs pour répartir la charge de travail. Dans un réseau décentralisé, on accepte que chaque serveur gère ses propres limites localement, ce qui évite qu'une erreur isolée n'entraîne une panne globale.
Merci beaucoup pour votre présentation, Théodore et Victor. Avant que vous concluiez, on va passer une musique pour que les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent en ce moment de votre groupe de TD puissent vous poser des questions. Vous avez choisi une musique. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ?
Oui, alors tout à fait, donc c'est la musique Paranoid Android de Radiohead, c'est un groupe de rock alternatif, et donc sur l'album OK Computer, donc c'est un album qui a été fait par les membres du groupe pour être un petit peu à l'encontre de l'ère numérique qui s'annonçait à l'époque.
C'est parti. De retour sur Graphite 94.9 pour terminer votre intervention, Théodore et Victor. Vous nous avez parlé de cette grande panne de Cloudflare il n'y a pas très longtemps, cette entreprise qu'on ne connaît pas trop mais qui est un intermédiaire technique pour beaucoup, beaucoup de sites web. Et donc quand il y a une panne, c'est comme si tout Internet s'effondrait, alors que Internet de base, c'est quelque chose de très décentralisé où on ne passe pas par un seul endroit. Et la question que je me posais, c'est, vous avez dit, bon voilà, beaucoup d'administrateurs de sites web utilisent les services de Cloudflare parce qu'ils ont besoin de se protéger des bots malveillants, on va dire, des robots qui consultent le site. Mais alors, on peut imaginer, vous l'avez dit, qu'à une époque, il y avait des robots qui faisaient de l'indexation, donc ça sert au moteur de recherche pour juste savoir quel site existe sur Internet. Mais de nos jours, c'est quoi en fait les bots qui parcourent Internet? Est-ce qu'il y en a d'autres types? Est-ce que ça représente un volume important? Est-ce que vous savez un petit peu de quoi il en retourne?
Alors, oui, en effet, c'est vrai que là, on présente le module là, de bot management de Cloudflare, parce qu'en soi, il répond quand même à une demande. Aujourd'hui, le réseau Internet, il est quand même en grande partie exploré par des bots, c'est-à-dire que, notamment avec l'émergence des intelligences artificielles, qui vont avoir besoin de contenu, et ce contenu, ils vont le chercher via Internet en se déplaçant justement sur le réseau, et en faisant face et les serveurs en face font face parfois à des surcharges. Et l'autre point aussi, ça va être dernièrement l'industrie publicitaire, la revente de données qui constitue quand même un business assez lucratif et qui, pour fonctionner, par exemple comme je le présentais précédemment sur le ratissage des adresses mail, où là l'objectif ça va être de parcourir tous les sites web et de repérer les choses qui ont une structure d'adresse mail pour pouvoir derrière les revendre. Donc aujourd'hui, par exemple, si on prenait l'exemple du site Librecours, on a presque 90% du trafic qui sont simplement des bots d'intelligence artificielle qui visent à comprendre le contenu et pouvoir l'exploiter derrière.
Pour Librecours, ça demanderait à être précisé, mais c'est pas impossible. Moi, je disais ça pour les services de Picassoft, mais en gros, ça ressemble un petit peu sur le genre de trafic. Il y a beaucoup de bots, IA, en effet. Et à titre personnel, je trouve qu'il y a un peu une ironie dans le fait que des fois, des sites qui proposent pas particulièrement de services commerciaux soient obligés de payer une grosse entreprise pour les protégés de bots qui vont appartiennent aussi à une grosse entreprise qui vend des services à partir de ces données. Donc finalement, à la fin, le fait de produire aujourd'hui des données sous licence libre pour faire un peu circuler la connaissance, des fois on se retrouve avec plus de bots qui essayent de les récupérer que de gens qui essayent de les lire. Mais enfin voilà. Et Stéphane, il dit que lui, il veut pas, mais on aura du coup sans doute une discussion parce que il a pas beaucoup le choix. Ou alors il peut demander à Cloudflare de peut-être protéger son site. On va passer du coup à la deuxième partie de cette émission avec vous, Dorian et Roy. Merci encore Théodore pardon, j'ai Victor pour votre intervention et pour votre travail. C'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette émission, nous allons nous intéresser à un produit que vous avez sûrement vu sur les réseaux ou dans les pubs, ou encore même croisé sur le nez de votre entourage. Nous allons bien sûr parler des lunettes connectées Ray-Ban Meta. Et pour en parler, je suis accompagné de Roy Rouhana, un étudiant libanais à l'UTC.
Bonjour Dorian, bonjour tout le monde. Pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces lunettes, on va d'abord revenir sur l'article du média suédois Svenska Dagbladet. Je m'excuse pour la prononciation. Ensuite, nous allons vulgariser le concept théorique qui se cache derrière avant de faire le lien avec des œuvres culturelles et philosophiques.
Alors on commence donc par les faits. Alors que depuis quelques mois, les lunettes intelligentes développées par Meta en partenariat avec Ray-Ban connaissent un grand succès, une enquête menée par le média suédois et la journaliste Naipanoi Lapana viennent ternir cette image.
En effet, on y découvre les témoignages de travailleurs kényans, leur quotidien. Ils sont chargés d'annoter les vidéos enregistrées pour les utilisateurs de ces lunettes connectées. Comme ces lunettes sont portées toute la journée, elles filment absolument tout. Des détails bancaires, des moments d'intimité ou encore des passants à leur insu.
Ces employés kényans décrivent donc une routine de travail où ils sont confrontés en permanence à des images de vie privée d'inconnus à l'autre bout du monde. Des scènes qu'ils n'auraient en fait jamais dû voir. C'est un flux vraiment continu de données collectées sans que ces personnes filmées en aient vraiment conscience.
Pour se rendre compte du problème, imaginez la scène. Vous êtes en train de bosser à la BU, où vous discutez tranquillement au PIC. Un étudiant passe à côté de vous avec ses lunettes Ray-Ban Meta sur le nez. Vous pensez qu'il porte de simples lunettes de soleil. Mais la caméra tourne. Votre visage, vos conversations, l'écran de votre ordinateur, tout est enregistré, à votre insu envoyé dans le cloud de Meta, et se retrouve sur l'écran d'un modérateur kényan. Pour mieux approfondir les thèmes abordés, nous vous laissons avec l'extrait suivant.
Harvard professor Shoshana Zuboff is sometimes called the Karl Marx of our time. Her monumental book, The Age of Surveillance Capitalism, exposed the dubious mechanisms of our digital economy. According to Zuboff, our personal and private experiences have been hijacked by Silicon Valley and used as the raw material for extremely profitable digital products.
The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. Why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable, indecipherable, cloaked in rhetoric that aims to misdirect, obfuscate, and just downright bamboozle all of us all the time.
Connecting them.
Don't be evil.
Connecting them, humanity.
Don't be evil.
Humanity, humanity.
It's about empowerment of the individual.
The future is private.
C'était un extrait du documentaire The Big Data Robbery consacré aux travaux de Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism, l'un des ouvrages les plus répandus sur le capitalisme de surveillance. Alors, Roy, à première vue, avec ces lunettes connectées de Meta, on serait tenté de dire que l'on est face à un cas typique de ce fameux capitalisme de surveillance généralisée, comme décrit dans l'extrait audio. Mais l'enquête de Svenska Dagbladet nous invite à aller au-delà de cette idée générale pour mettre en lumière un mécanisme plus précis, celui du panoptique.
Le panoptique, Dorian, c'est un terme qui vient de loin, non ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie concrètement pour nos auditeurs ?
Absolument. Pour bien comprendre, il faut remonter au XVIIIe siècle avec le philosophe Jeremy Bentham qui a théorisé le panoptique à travers un modèle de prison circulaire. Il a imaginé des cellules disposées autour d'un cercle, enfin autour d'une grande tour centrale. Dans cette tour, il y a un gardien unique. Et grâce à un jeu de lumière et de persiennes, le gardien peut tout observer, mais les détenus, eux, ne peuvent jamais le voir.
Et quel est l'intérêt d'un tel dispositif s'il n'y a qu'un seul gardien pour des centaines de prisonniers ?
C'est là que se situe toute la subtilité psychologique, Roy. Comme le détenu ne sait jamais s'il est surveillé à un instant précis, il est obligé de partir du principe qu'il l'est en permanence. Il finit par intérioriser la contrainte et par se comporter comme s'il était espionné à chaque seconde. C'est carrément de l'autocensure. Le gardien n'a même plus besoin d'intervenir. Le prisonnier devient son propre surveillant.
D'accord, je vois très bien l'image de la prison de Bentham, mais si on transpose ça à nos téléphones ou à ces fameuses lunettes Ray-Ban Meta, en quoi notre quotidien devient-il panoptique ?
C'est là que le concept devient le panoptique numérique. Aujourd'hui, à la différence du panoptique développé par Bentham, on n'a plus besoin d'une tour de contrôle bien visible. La surveillance s'infiltre directement dans nos interactions les plus banales et sa force repose entièrement sur son invisibilité.
Parce que finalement, n'importe quel étudiant croisé dans le couloir devient un gardien potentiel ?
Exactement. Nous devenons tous des capteurs mobiles. Quand tu marches dans le campus, tu es dans une incertitude permanente. Impossible de savoir si les lunettes de ton voisin enregistrent ta voix ou ton écran pour l'envoyer chez Meta. Et comme chez Bentham, c'est cette incertitude qui pousse à l'autocensure dans l'espace public. Ce n'est plus une autorité centrale, mais vraiment le réseau lui-même, à travers notre entourage, par exemple.
C'est tout à fait ça. En transformant chaque interaction humaine en opportunité de surveillance, les murs de la prison éclatent pour englober toute la société. On vous laisse avec un extrait audio pour approfondir notre réflexion.
All right, Google is telling Google Glass users, do not be a so-called glass hole. The new word in a just-released etiquette guide by the company. The guidelines were created to help people who already have the high-tech device. You see the little glass-like device right there? It's meant to, you know, be able to free up your hands, put everything you need technologically in your line of sight. So the do's and don'ts of this new list include asking for permission when using glass to take pictures of others. That can get kind of creepy. Also, don't quote, glass out. That's when a user uses glass for a long period of time, essentially spaces out, it looks weird. And in reference to the first tip we told you about that we won't repeat, Google says, just don't be one. And quote, respect others. And if they have questions about glass, do not get snappy. Be polite and explain what glass does. And it warns users, if they don't want to be asked a question, then put your Google Glass away. Pam.
Vous venez d'entendre les consignes que Google donnait à l'époque pour apprendre à ses utilisateurs à ne pas devenir des glass holes, concrètement des trous du cul à lunettes. Et oui, pour nos auditeurs qui n'ont pas la référence, c'est un mot qui est apparu dès la sortie des Google Glass en 2013 pour qualifier le boycott subi par les porteurs de cette monture. Il faut dire que la présence ultra-visible de la caméra sur une monture au design assez futuriste a créé une rupture de confiance immédiate dans l'espace public.
Tout à fait. Et selon le philosophe Eric Sadin, dans son œuvre Penser à temps, les Google Glass franchissent un seuil par rapport à ce qui existait avant. Il considère que, à la différence des lunettes de soleil et de leur verre teinté dissimulant le regard, elles permettent de saisir des images des personnes et de les poster aussitôt, renforçant comme jamais la propension au voyeurisme.
En fait, c'est un renversement total. Alors que les lunettes de soleil servent à se cacher des autres, les Google Glass inversent la logique pour saisir le regard d'autrui à son insu en créant une sorte de voyeurisme technologique.
Mais alors, comment le géant de la tech a-t-il résolu le problème qui avait condamné le projet de Google ?
Tout simplement en s'associant avec Ray-Ban pour rendre la caméra presque invisible. Ce n'est plus un outil technologique intrusif que l'on aborde, c'est un accessoire de mode qu'il faut absolument avoir à l'ère des réseaux sociaux, bien loin des glass halls de 2013. Pourtant, la rupture de confiance dénoncée par Eric Sadin n'a pas totalement disparu. Elle est simplement devenue moins visible.
Mais l'évolution logique de ces lunettes connectées, c'est l'effacement total de l'objet physique au profit de puces cérébrales comme celle de Neuralink. Une trajectoire qui rappelle le scénario de l'épisode « The Entire History of You » de la série Black Mirror.
Exactement. Dans cette dystopie, chaque instant de notre vie, même le plus intime, peut être revu à n'importe quel moment. Et ne pas avoir de puces devient une anomalie sociale suspecte. Le panoptique devient alors absolu. Chacun participe activement à la surveillance de tous. À la fin, le personnage principal finira par détruire cette puce après tout le mal causé sur ses relations proches. C'est peut-être en ce sens que Eric Sadin souligne un risque majeur, je cite, « Les technologies numériques exercent un pouvoir sans cesse de plus en plus prégnant sur nos exigences, sur nos existences, sans que la faculté proprement humaine d'évaluation ou de décision librement consentie soit requise. »
Merci beaucoup pour votre écoute.
C'était Dorian Cousin et Roy Ruana sur Graphite. Si vous souhaitiez approfondir ce sujet et notamment explorer les alternatives pour vous protéger de ces menaces, je vous invite à vous connecter sur mon site internet à l'adresse https://www.etu.utc.fr/tilde-cousin-do/. Où tout notre contenu est diffusé sous licence libre Creative Commons.
Merci beaucoup à vous quatre pour vos travaux, Théodore, Victor, Roy et évidemment, j'oublie toujours, un des quatre.
Dorian.
Dorian, pardon, je suis vraiment désolé. C'était une perspective intéressante aussi de voir comment est-ce que quelque chose présenté comme un accessoire de mode un peu fun et tout peut devenir aussi un instrument de contrôle social et bien d'autres choses encore. Merci pour cette note de fun. On va finir par une musique que vous avez choisie. Vous voulez nous dire deux mots sur la musique?
Oui, il s'agit d'une musique de Rockwell, Somebody is Watching Me. Et ça rentrait totalement dans le thème. Mais à l'époque où elle a été écrite, il y avait encore l'ère des ordinateurs et de la surveillance de masse. Donc bien sûr, il parlait plutôt d'un homme paranoïque qui se sent constamment observé. Et si vous écoutez bien, même s'il n'est pas crédité, vous reconnaîtrez peut-être la voix de Michael Jackson.
Merci beaucoup. On terminera l'émission par là et on se retrouve d'ici 10-15 minutes pour la cinquième de l'après-midi. Merci encore et à tout à l'heure. Watching me.